wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Sophie Catherine Gallet, Lucille Gomeau, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Emmanuel Morse-Duncan. Réalisation Lise Combe. Autour de moi, Lucille Gomeau, Anna Sigalevitch et Philippe Chevillier pour parler ensemble ce soir de Fanny Alexandre, d'Ingmar Bergman, adapté et mise en scène par Julie Deluquet, c'est à la Comédie Française. Le faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt, mise en scène Christophe Berton au théâtre Déjazé. Il y aura un coup de cœur d'Anna Sigalevitch pour Localement agité d'Arnaud Bédoué, c'était au Théâtre de Paris. Et puis un petit salon de Lucille Gomeau, chuchoté dans un micro, la sonorisation au théâtre. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour les nouvelles expositions de la Maison Européenne de la Photo, à savoir celle de Ren Hang et celle de Coco Capitan. C'est à découvrir jusqu'au 26 mai à Paris. Julie Deluquet m'avait, je parle pour moi, déjà enthousiasmé en 2016 avec son oncle Vania au Vieux Colombier pour la Comédie Française. Mais cette fois, elle entre dans la grande salle Richelieu en adaptant avec Florence Sévos et Julie André le dernier film pour le cinéma d'Ingmar Bergman, Fanny Alexandre, un film évidemment qui parle beaucoup de théâtre et il était tentant, sans doute aussi risqué, de l'adapter pour la scène. On verra notamment Denis Podalydès, qui incarne Oscar Ekdal, comédien, directeur de théâtre, qui va répéter Hamlet sous les regards un peu perplexes de sa mère, de sa femme, toutes deux comédiennes, l'étant ou l'ayant été. La famille se réunit aussi pour le repas de Noël, mais la fête ne durera pas, puisqu'un mort... De la mort d'un des convives va évidemment changer l'atmosphère de ce spectacle qui, dans sa deuxième partie, va être beaucoup plus sombre et verra Fanny et Alexandre, les enfants, affronter les conséquences de cette mort qui les touche de si près. Le théâtre, peut-être, les sauvera.
Qu'est-ce que c'est que cette poupée ?
Il y a 15 ans, deux petites filles vivaient ici.
Elles se sont noyées, n'est-ce pas ?
Et leur mère aussi.
Elles sont peut-être devenues des fantômes.
Ne dis pas de ceci, c'est pas ma femme.
Elles dormaient ici ?
Oui, je crois qu'à l'époque, c'était une chambre d'enfant.
Et un soir, alors que la nuit tombe et que nous entrons dans cette chambre, deux petites filles sont là, pâles et vêtues de noir.
Chut.
L'une d'elles tient cette poupée à la main. Et elles me disent « Viens jouer avec nous, Fanny !»
Sois pas si bête. Arrête.
Et ensuite, elles entraînent Fanny dans un endroit profond de la rivière. Et Fanny ne peut rien dire. Elle ne peut même pas appeler au secours. Et tout à coup, Fanny disparaît.
Arrête. Arrête.
Maman, je veux pas vivre ici.
C'est sordide. Et notre beau-père est un peu trop rigide.
Ouais, sa sœur, elle est complètement folle.
Et cette tante qui grogne en dessous, on dirait une bête. J'ai faim.
Faut me laisser un peu de temps. Il y a beaucoup de choses à changer. Certaines iront plus vite. D'autres vont prendre plus de temps. L'essentiel, c'est de rester unis.
Pourquoi l'as-tu épousée ?
Je l'ai épousée parce que je l'aime. C'est comme ça. Et vous aussi, je vous aime. Maintenant, nous allons dormir et quand nous serons plus fatigués, tout sera plus drôle.
Oh.
Allez, arrête. Arrête, Alexandre. Arrête de jouer à Hamlet, là. Je suis pas la reine Gertrude et ton beau-père n'est pas le roi du Danemark. Allez, à demain. Dormez bien. À demain.
À demain. Ça, c'est un extrait de la deuxième partie du spectacle. Je vais vraiment résumer à grands traits l'histoire. Celles et ceux, nombreux et nombreux, qui ont vu soit le long métrage d'Ingmar Bergman, soit la série télévisée qu'elle était à l'origine, donc en 3 ou 5 heures, hein, ça dépend des cas, auront sans doute aussi reconnu ce passage. Anna Sigalevitch, si vous nous disiez Bah, ce qui se passe quand on arrive à la Comédie Française et comment on débute ce spectacle?
Alors, le spectacle débute par Denis Podalydès, qui entre en scène et qui s'adresse au spectateur.
Devant
le rideau. Voilà. Donc, Denis Podalydès joue Oscar Ekdahl, qui dirige un théâtre. Donc, on est chez eux, le soir de Noël. Et puis, il nous explique que le théâtre, bah, c'est son petit monde, que c'est une communauté un peu à part de gens qui l'aiment profondément. Et il est submergé par une certaine émotion. Et il invite cette communauté qui vit avec lui à se présenter. Et c'est comme ça que le spectacle commence. Donc, il y a sa femme, Émilie, il y a sa mère, Elena, il y a son frère qui n'est pas là, qui est en retard, Karl, bien sûr. Il y a son autre frère, Gustave Adolphe, qui est le restaurateur du théâtre. Il y a les enfants, Fanny et Alexandre. Et puis, voilà, il y a...
Les domestiques.
Les domestiques, bien sûr. Et la mère, je l'ai dit. Enfin, bon, il y a beaucoup de monde... Il y a beaucoup de monde qui est là, présent dans ce théâtre. Et quand le rideau s'ouvre, on découvre vraiment un plateau de théâtre avec la machinerie à vue. Voilà, on est là. Il y a une fête qui va commencer. On installe des chandeliers, on installe des verres. Le buffet ne va pas tarder à être ouvert. Et ils vont festoyer pour fêter Noël. Voilà, ça commence comme ça.
Vous l'avez vécu comment, ce début de spectacle, Fanny
Alexandre ? C'est un spectacle qui pose beaucoup de questions, je trouve. Ce qui, donc, du coup, en fait un spectacle intéressant. Réussi, je ne sais pas, mais en tout cas, qui donne du grain à moudre. Enfin, moi, qui m'a donné du grain à moudre. Première question, qui est très importante, la question de l'adaptation. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation au théâtre ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire ? Est-ce qu'une bonne adaptation, c'est une adaptation qui colle au film. Alors là, en plus, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a trois matériaux. Il y a le film, il y a la série et il y a un roman. Moi, j'ai vu le film et la série, je n'ai pas lu le roman. Donc, il y a trois sources, dont une que je n'ai pas en tête. J'ai en revanche bien en tête le film. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps, mais je l'ai vu plusieurs fois. Mais bon, bref, peu importe. J'ai en tête le film et la série, mais pas le roman. Et alors, voilà, la question, est-ce qu'une bonne adaptation, c'est une adaptation qui colle à l'idée qu'on a du film ? Est-ce que c'est une adaptation qui est fidèle à l'esprit de ce qui se raconte dans le film ? Ou est-ce qu'une bonne adaptation, c'est puiser dans un matériau et en faire un bon spectacle ? Voilà, c'est quand même des choses qui sont...
Alors, en restant sur cette question, votre première réponse, vous, Anna Segalevitch, avant que ne la poser aux autres ?
Je sais pas, c'est ouvert comme question. Ça peut être tout ça.
Pour ce spectacle-là, il vous semble que c'est quoi ?
Pour ce spectacle-là, c'est un petit, malheureusement, aucun des trois. C'est-à-dire que, j'exagère, parce que c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très intéressantes de spectacle, notamment le fil qu'elle tire sur le théâtre, qui prend une place très importante. Mais pour moi, dans Fanny et Alexandre, il y a une chose qui est très 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 importante, c'est l'enfance. Et c'est le fait que tout passe par le regard des enfants, du début à la fin. Je sais plus si c'est le film ou la série, mais il y a un prologue avec Alexandre qui est seul au départ.
Moi j'ai revu le film hier, c'est dans le film.
C'est dans le film aussi, alors je crois que c'est aussi dans la série.
Dans les deux.
Donc ce prologue qui est très important parce que le film s'ouvre comme ça. Alexandre qui déambule
dans cette maison invraisemblable
où il y a tout de suite des choses surnaturelles, des éléments magiques, etc. Et ensuite, il y a plein de choses avec les enfants. On passe en permanence du scène avec les adultes avec une scène avec les enfants. Et pour moi, les enfants n'existent pas assez au départ. Voilà, pour un
Philippe
premier...
Chevillier.
Si on parle d'adaptation.
Pour reprendre un peu le fil tissé par Anna Segalevitch.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Anna et je vais parler d'adaptation. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'adaptation est particulièrement réussie parce qu'en fait, on a eu trois cas de figure d'ailleurs à Comédie Française. Le premier, c'est celui d'Ivo Vanhove avec les Danais qui prend le scénario. Prend le scénario avec les dialogues.
Tous les dialogues,
vraiment au mot près.
Hein,
moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle, c'est pas la question, mais c'est,
sûr, voilà, oui, c'est une façon de faire.
Une façon de faire. La deuxième façon de faire, c'était Jatahi avec La Règle du jeu, où c'est du théâtre-cinéma basé sur des impros, transpositions, etc. Là, on se retrouve effectivement avec trois matériaux. Alors moi, je n'ai pas vu la série télé. J'ai revu le film hier, comme Arnaud. On n'était pas ensemble, mais je l'ai revu chez moi. Et je trouve que c'est quand même... Elle a réussi à faire quelque chose qui est une vraie pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois dans une première partie chorale et puis dans une deuxième partie, en plus... Effectivement, elle s'éloigne du film, mais tant mieux, je dirais. Parce que de toute façon, c'est impossible, quand on voit le film, de reprendre ces plans qui sont lents, ces espaces différents. Là, il y a Elle a trouvé une idée toute simple, ce qu'a rappelé Anna, d'ailleurs, sur lequel là, pour le coup, on est d'accord. C'est ce fil de dire, bon, bah, finalement, ça parle d'une famille de théâtre. Là, j'ai une famille de théâtre qui est formidable, qui est celle de la Comédie-Française. On va tirer ce fil-là, mm-hmm. et on va raconter l'histoire de Fanny Alexandre à travers, effectivement, non plus des enfants, mais peut-être des adolescents. Mais c'est vrai qu'elle a tiré vers, et c'est un parti pris. Et moi, je trouve que c'est bien qu'on s'éloigne du film, parce que je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire autrement. Et
je dis pas que c'est pas bien qu'on s'éloigne du film, hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Je dis qu'il y a plusieurs façons de faire. Non, mais je précise juste.
Et je trouve que le travail qu'elle a fait, et bon, c'était pareil dans Vania, c'est-à-dire cette façon de coller aux comédiens et de leur donner vraiment matière à vraiment prendre en main ce spectacle et en même temps être à la fois sur une transposition, une adaptation, une différence du film, mais en même temps être très proche des thèmes de Bergman, mais on en reparlera, je trouve ça assez fort.
Lucille Comeau ?
Oui, là, on est dans un cas particulier parce qu'on est donc une pièce qui est l'adaptation d'un film qui est lui-même un film sur le théâtre. Parce que c'est certes un fil qu'elle tire particulièrement, je crois, Julie Deliquet, mais c'est omniprésent aussi à la fois dans la série et dans le film, le fait qu'on travaille une matière qui est de toute façon les artistes au cinéma, le théâtre au cinéma. Donc ça peut être, moi je pense, très étouffant. Moi j'avais très peur en arrivant dans la salle de la Comédie-Française d'une forme extrêmement close, dont rien n'échappe, où le théâtre de plateau, en plus que pratique Julie Deliquet, se regarde en train de se construire. Parce que c'est pratique d'avoir une forme un petit peu théorique comme ça quand on veut montrer ce qu'on fait comme travail avec les comédiens. Moi, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. J'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle. Et pour du coup aller un petit peu plus avant dans la seconde partie, parce que c'est vrai qu'il y a deux parties qui sont très différentes les unes des autres. La seconde partie n'est certes plus une mise en abîme pure, puisqu'on est dans un décor totalement différent, pour le coup très clos. On ne voit plus du tout les décors du théâtre. Se ferme une sorte de pan carrelé qui correspond aussi à un carrelage par terre, ça ressemble presque à un réfectoire ou alors à un décor de film d'horreur. Moi, je pense qu'il y a toute une réflexion par ailleurs sur le cinéma de genre qui excède largement Bergman, qui m'a beaucoup intéressée dans cette deuxième partie. Et où là, la question de la mise en abîme n'est plus celle du pur jeu, c'est-à-dire que le danger est là, il y a un personnage qui est extrêmement menaçant, y compris pour les enfants, et que du coup, la manière dont le théâtre s'empare de presque d'un cinéma de genre horrifique, ou en tout cas de risque pour les enfants, pose une question sur l'enfance assez passionnante. Et il y a un moment dans cette deuxième partie où... on doit revenir pour la nécessité du scénario entre guillemets au théâtre, à la famille, la première famille. Et là, le pan carrelé se soulève et on retourne dans la famille précédente et donc au théâtre. Et on s'en sort avec une sorte d'entourloupe. Un des personnages dit bah oui, on est au théâtre, donc ça, on peut le faire. Mmh. Et je trouve ça extrêmement intéressant que ça arrive à ce moment-là du spectacle, parce que toute la mise en abîme au départ qui pouvait apparaître comme une sorte de carnaval, un peu revue, un peu divertissement, devient un vrai enjeu de comment on va sauver ces enfants, comment on va les faire sortir de cet enfer qui est devenu qui est la scène à ce moment-là. Et vraiment, je trouve que justement ça travaille bien bien la question de l'enfance, toute la question de dire la vérité, dire du mensonge, imagination, vivre dans le réel, tout ça, ça se thématise quand même assez bien et assez subtilement. Moi, je suis assez convaincue par ce spectacle. Alors,
sauf que quand même, et ça c'est vraiment la faute, si je puis dire, de Julie Deliquet, dont j'ai dit combien j'avais aimé Vania. J'ai beaucoup aimé ensuite Mélancolie, où elle avait tissé les trois sœurs et Ivanov de Tchekhov. Là, je trouve que quelque chose n'advient pas, et je pense que c'est quand même en grande partie lié au fait qu'il ne peut pas y avoir des enfants sur un plateau de théâtre qui jouent même en alternance et qui auraient l'âge des enfants du film, et que certes Jean Chevalier et Rebecca Marder sont des comédiens tout à fait intéressants, etc., mais on n'est pas dans le même rapport. On n'a pas des enfants qui passent d'un foyer extrêmement aimant de saltimbanques foudingues, mais quand même très 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 chaleureux, à quelque chose qui tire effectivement vers le film d'horreur. Et moi, ça m'aurait intéressé aussi de savoir, sans doute dans un de ses écrits, quel rapport Bergman entretient non seulement avec le cinéma de genre, mais on est obligé de penser à Jean Renoir, pour qui évidemment le cinéma et le théâtre sont des choses qui ont vraiment partie liée. Là, Julie Deliquet nous montre dans la deuxième partie un personnage qui est vraiment très proche de Robert Mitchum dans la Nuit du Chasseur. Enfin, il y a des références effectivement cinématographiques qui sont importantes, mais alors je poursuivrai tout à l'heure, parce que Lucille Comeau a envie de préciser quelque chose. L'âge quand même, pour moi, en tant que spectateur, pose un problème de perception du sujet même. Lucile, comment ?
Alors moi, justement, j'ai vu ces enfants, enfin, en effet, ce ne sont pas des enfants, ce sont
des jeunes gens.
Mais ce sont des adolescents, et l'adolescence peut aussi...
Ils ont 25 ans, les adolescents. Donc
oui, mais les acteurs ont 25 ans, mais là, moi, j'ai vu des adolescents, des personnages d'adolescents, avec des questions sexuelles qui n'affleurent pas forcément, en tout cas de cette manière-là, dans le film de Bergman.
Et c'est sexuel.
C'est pas exactement la même chose. Là, on est à un âge d'adolescence, de potentiel, voilà, d'envie. Et du coup, la question du cinéma de genre, elle est intéressante à cet endroit-là, parce que le cinéma d'horreur, ça regarde l'adolescence.
Philippe Chevillier ?
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que je trouve que c'est justement les enfants, Fanny Alexandre, ils sont surtout. Alexandre, il est vieux dans le film, dans sa tête. Il a un côté. Il n'a plus d'âge.
Il est
oui,
mûr.
Mais c'est Bergman qui se revoit avec ça.
Il est mûr, pas vieux.
Il est très mûr. Il est hors d'âge. C'est un personnage qui est aussi relativement inquiétant. Et je trouve que justement, ce que fait Jean Chevallier, et je trouve qu'au théâtre, on peut tout. On a déjà vu des enfants joués par des femmes jouées par des hommes. Et moi, je trouve que là, justement, ça crée une étrangeté supplémentaire et une perversion. Cité supplémentaire, parce que par exemple la scène où le pasteur fesse violemment le jeune Alexandre devient une perversité totale et ça renforce ce côté pervers et donc une dimension qu'il y a chez Bergman qui est sous-jacente puisqu'on parle, il parle beaucoup de sexe, et que Julie Ducey peut pas tirer tous les fils en même temps, et par certains moments, c'est comme la scène du fantôme, il y en a beaucoup plus dans le film, mais il suffit d'une ou deux images pour qu'elle arrive à créer justement, à susciter cette sensation ou cette image.
Anna Segalevich.
Non, moi je suis pas d'accord. Je suis comme vous, Arnaud. C'est-à-dire que c'est pas du tout les acteurs que je remets en question.
Non,
effectivement,
pas du tout.
C'est
je
comme
les aime
ça.
L'un et l'autre.
C'est comme ça, ils sont très bien, hein, tous les deux. Elle a une présence magnifique, Rebecca Marder. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Mais je n'y crois pas. En fait, c'est juste que je n'y crois pas. Le fait que Jean Chevallier, qu'Alexandre, qui est grand, qui est fort, qui en plus il a quelque chose de provocateur et de rebelle. Et là, c'est toute. Enfin, il y a qu'un enfant qui peut dire non, crier, et ensuite se faire taper dessus. Et enfin, les bascules de la scène, de la situation, pour moi, ne marche pas avec un garçon qui a plus de 16 ans, je dirais même. Je pense que, même si on considère que c'est des adolescents, c'est un autre rapport qui se joue, c'est autre chose, et pour moi, ça fonctionne pas, j'y crois pas, quoi.
Alors, peut-être revenir quand même sur le fil théâtral, parce que le temps file aussi dans notre émission. Là aussi, pour moi, autre problème. Alors, en revoyant le film hier, j'ai quand même une surprise, hein, parce que j'avais vu le film à sa sortie, donc ça date légèrement. Je trouvais que le spectacle, ce qui me posait problème, moi, c'est que c'était du théâtre très théâtre. C'est-à-dire très en force, très adressé, très déclamé. Et que, évidemment que c'est une indication de jeu, évidemment, de façon, en plus, c'est vraiment quand on voit la troupe du français, moi, quand je vois tous les comédiens qui sont là, je les aime tous. Enfin, vraiment, j'ai une passion pour presque chacun des acteurs qui sont sur le plateau de Fanny Alexandre. Bon, là, ça joue comme ça, mais ça joue comme ça aussi dans le film. Alors là, la fidélité au film, pour moi, elle est problématique en ceci que, le film m'a paru, pardon, sacrilège, hein, mais daté. Vous l'avez revu hier, pas chez moi, mais chez vous, Chevillier.
Oui,
vous voyez ce que je veux dire sur ce théâtre?
Oui, mais j'ai pas trop pensé à ça. Oui,
qui force, et au cinéma, ça donne une certaine chose. Sur un plateau, c'est quand même pas la même chose.
Oui, sauf que là encore, on est. Alors, ça, je dirais que c'est facile de dire ça, mais on est dans le théâtre, et justement, ces personnages, et même le restaurateur, qui n'est pas Gustave, qui est l'homme priapique, là, qui s'attaque à toutes les femmes qui passent, c'est un personnage. Il a presque besoin de faire plus de théâtre que les autres pour montrer qu'il fait partie de la famille. Et il y a aussi cette dimension, Julie Delicquet en parle, mais du personnage d'Émilie, qui est la femme qui va se retrouver veuve et qui, dans une deuxième partie, avec cette histoire terrible qui va lui arriver, va vivre sa tragédie qu'elle a peut-être jamais vécue au théâtre et qu'elle a jamais vécue dans la vie.
C'est très intéressant, cette prise de parole, parce qu'il faut peut-être préciser que la deuxième partie commence justement par la prise de parole de Elsa Le Poivre, donc Émilie, qui dit des choses. Parce que moi, c'est pour ça que je suis ambivalente sur ce spectacle, parce que je trouve qu'elle tisse en même temps des fils qui sont très intéressants, notamment celui-là. Pardon, je vous ai interrompu, Philippe. Oui. Complètement. Allez-y.
C'est juste pour. Moi, je suis quand même subjugué par cette façon qu'elle a, même dans la scène du début qui est plus classique, mais qui est très difficile, une scène chorale, à réussir Julie Delicquet, qu'elle réussisse quand même à maîtriser tous ces comédiens, en disant en plus qu'il y a des improvisations qu'on ne repère pas. Moi, je les ai pas repérées, les impros, parce que finalement, quand on regarde le film, des moments qu'on croit improviser, alors s'il y a peut-être le Phèdre Dominique Blanc quand elle fait sa tirade,
et puis toute la séquence sur Hamlet qui est absolument géniale, avec Nicolas Dalides qui est pas du tout dans le film,
je pense pas que ça soit non plus 30 secondes,
alors dans la série elle est elle est assez longue, cette scène, mais elle est très longue et elle est très austère, elle est hyper premier degré. Elle
n'est
pas drôle du tout, et Alexandre ne se moque pas du tout, il est fasciné par son père à ce moment-là. On est dans le drame à ce moment-là.
Bah oui, alors c'est pas pareil.
Non.
Lucille Gaumont, un dernier mot.
Moi, sur les acteurs, oui, j'ai un petit peu de problème aussi, comme vous. Parfois, je pense qu'il y a quand même un petit conflit entre le jeu de plateau, la manière dont Julie Deliquet travaille par ailleurs, et les emplois de la Comédie Française. Moi, je pense à Laurent Stocker, que j'aime beaucoup, mais qui joue tellement du Laurent Stocker.
Ah non, moi, je trouve génial.
Ça m'amène un peu, moi, de problème avec cette énorme séquence de Denis Podalydès, qui est quasiment une partie de musical ou de One Man Show, où vraiment
la plongue.
Ah si, c'est quand même assez long.
Ça décale quand même beaucoup les choses.
Voilà, c'est pour le coup, on est trop dans le burlesque.
Après, il y a la scène, cette dramatique, donc moi, je trouve que c'est contrasté.
Peut-être que ça dépend des jours, on l'a vu ensemble avec Lucille hier, et hier, ça prenait vraiment beaucoup de place.
Oui, oui,
ça dépend des jours, forcément. Vous voulez dire un dernier mot, Philippe ?
Oui, juste, par exemple, sur Thierry Ancis, que j'avais vu beaucoup en force dans ses derniers spectacles, qui là, elle arrive à créer, il est en force aussi, mais elle crée un personnage qui est vraiment à la fois vraiment inquiétant, qui est vraiment cohérent de bout en bout, et qui a ce côté presque, qui est presque touchant dans le mal, ce qui n'est pas vraiment le cas dans le film, où il n'est pas vraiment touchant.
Non, pas vraiment. Mais cette troupe regorge de talents. On les voit. Ils sont combien sur scène? 18, 19,
Ouais, 19, je crois.
J'ai oublié mon compte.
Vingtaine.
Je comptais sur vous, Anna.
Je rigole.
Allez, Fanny Alexandre, d'après Ingmar Bergman, mise en scène, Julie Deliquet. C'est jusqu'au 16 juin en alternance dans la grande salle à Richelieu de la Comédie Française. À suivre dans la dispute, on reste dans le théâtre du théâtre. Le faiseur de théâtre, Thomas Bernard, localement agité. On dirait de quoi il s'agit, Anna Segalevitch et un petit salon de Lucille Como.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au théâtre avec justement le faiseur de théâtre de Thomas Bernard, mise en scène Christophe Perton. La dernière mise en scène que j'ai vue de Christophe Perton, c'était celle de Au But, du même auteur, au Poche Montparnasse. C'était un spectacle extrêmement réussi. Alors, j'ai pas encore pu voir celui-ci. Le faiseur de théâtre qui met en scène et en vedette André Marcon. Une pièce qui n'est pas sans rappeler donc Fanny Alexandre, puisque André Marcon, c'est Bruscon, acteur, auteur, metteur en scène, qui lui aussi a requis toute sa famille pour aller porter l'art dramatique de par les villages, comme dirait Peter Handke. Mais là, c'est le fin fond de l'Autriche où ils atterrissent en tout cas à ce moment-là. Et comme on est chez Thomas Bernard, on ne s'étonnera pas que Bruscon en veuille à la terre entière, alors qu'il faut quand même bien se préparer à jouer son grand œuvre, qu'on ne résumera pas, je vous rassure, La roue de l'histoire.
Les bouchers ont une très belle relation à l'art dramatique. Aujourd'hui, j'ai envie d'un beau morceau d'aloyau rôti. Les meilleurs comédiens doivent manger chaque jour de la viande. Le régime végétarien ne s'accorde pas avec l'art dramatique. Toi seul crois pouvoir survivre à la longue avec des légumes et ces salades abominables. De quoi tu as l'air? Une honte pour le théâtre, une honte pour le sexe féminin. Fille de maçon. Ma prolétarienne chérie. Et qu'est-ce que tu te permets, Sarah, mon enfant, notre mère est une folle.
Le faiseur de théâtre est en ce moment au Déjazé et c'est Philippe Chevillier qui commence à nous en parler.
Alors cette pièce, oui, qui est forme de nihilisme pathétique et joyeux, une farce noire. Alors là, Thomas Bernard se moque évidemment de l'Autriche, enfin la dénonce l'Autriche, de son vieux fond nazi, l'abêtissement des campagnes. Enfin, on a le droit à tout sur l'Autriche et puis on a le droit aussi à tout sur le théâtre. C'est-à-dire qu'il il se moque aussi du théâtre.
C'est un best-of de Thomas Bernard.
Voilà.
Vraiment, c'est la carte non, mais c'est vrai de Thomas Bernard.
Et il se moque de lui-même d'une certaine façon. Donc c'est un texte qui est quand même relativement périlleux à jouer. Et il est aussi très périlleux parce que, comme souvent, enfin, dans celui-là en particulier, on a quand même un monologue entouré de plusieurs personnages qui sont censés donc être sa famille et qui sont quand même des rôles. Il y a beaucoup de rôles, mais qui sont tous très secondaires.
Oui, oui. Donc c'est très difficile. Une certaine humilité pour les
voilà, pour les interpréter et pour les mettre en scène, puisque on a tendance évidemment à se porter sur le personnage de Bruce Kohn, ce comédien qui a écrit cette phénoménale
roue de l'histoire.
Roue de l'histoire. Il y a Churchill, enfin il y a un petit peu tout le monde. Et donc Pertaud a eu deux bonnes idées vraiment de départ. D'abord de faire appel à André Marcon. Puisque André Marcon, jouant le faiseur, ça fonctionne très bien. Moi, je trouve qu'il a, il parle la langue de Bernard très bien, un peu comme on disait que Sammy Frey parlait très bien la langue de Beckett. Lui, il parle très bien la langue de Bernard. Je pense qu'il y a des soirs où il peut être, c'est un rôle qui est assez dur, assez épuisant. Il peut être moins en forme que d'autres. Moi, je l'ai vu plutôt très en forme et ça fonctionnait bien. Et la deuxième idée, qui marche assez bien, je trouve, c'est ce décor. Qui est l'idée d'inverser le théâtre de Jazet sur scène, donc d'avoir ce théâtre qui est en soi assez admiré, assez décati, de le retrouver. Donc on n'a pas une salle des fêtes avec des cochons qui courent partout, mais on a un double de la salle de Jazet. Donc ça a tendance à décaler un petit peu par rapport aux propos sur justement ces théâtres de ces salles des fêtes de province de l'Autriche et de donner une image un peu plus onirique au spectacle. Mais juste réserve, on reviendra dessus. C'est je trouve que la mise en scène, disons, surtout des personnages secondaires, pour le coup, il n'a pas vraiment trouvé. Perton n'a pas vraiment trouvé la solution, et que du coup, quand Marcon ne parle pas, on s'ennuie un peu. Voilà.
Lucille Comeau sur ce faiseur de théâtre.
Oui, c'est ce que je pensais en écoutant Philippe, que c'est assez dangereux même pour le théâtre de Jazet de mettre à ce point-là en scène sa propre image de manière extrêmement dégradée, puisque
c'est très Bernardin.
Mais c'est exactement. Oui, mais il y a un côté autour. Enfin, faut y aller. Puis ouais, en plus, voilà, vrai. Parce que en effet, on a affaire. C'est une sorte d'effet de miroir. En plus, il y a des reproductions de peintures moches que le personnage n'a de cesse de dire, mais c'est pas possible. Faut les enlever. C'est trop moche. C'est impossible. Donc le rideau marche pas. Il y a des ampoules qui marchent pas, ce sont exactement les mêmes ampoules que nous, on a sur le côté, et en plus elles ne marchent pas non plus. Il faut dire que le spectacle est quasiment tout le temps dans une lumière publique assez forte, donc on nous voit. Moi, le soir où j'y étais, il y avait très peu de monde, donc c'est très impressionnant de voir une pièce comme ça avec aussi peu de monde autour de soi, c'est-à-dire que vraiment Marcon, il était à l'avant-scène en permanence, à limite j'avais l'impression qu'il me regardait moi. Donc
je crois que c'est le cas, il me l'a dit. Hein. J'ai vu Lucille Comeau et
Ça fait un effet assez particulier. Après, sur justement André Marcon, je dirais pas que c'est le meilleur personnage, enfin, parce que c'est un personnage pour dire ce texte. Moi, j'ai entendu du Molière tout le temps. C'est-à-dire que je l'ai vu entrer sur scène. Bon, après, la référence, elle est évidente. Et puis surtout, elle est assumée par Christophe Perton, qui parle beaucoup du malade imaginaire. Et il en est question, en plus, dans la pièce. Mais j'ai vraiment vu un barbon de Molière en scène dire son texte, comme on dirait du théâtre classique. Je pense que c'est tout à fait assumé. Et pour le coup, je suis assez intéressée par ce que font les autres comédiens autour. Parce que, en fait, on a l'impression que Perton, il a fait exactement comme la roue de l'histoire. Il a fait une comédie de toutes les comédies, au sens où il prend un peu à plein de trucs de théâtre. Donc il y a ce fameux gérant du théâtre qui fait une sorte de pantomime un peu comique, qui regarde un peu quand même plutôt vers le 20e siècle. Sa femme, on dirait un personnage un peu tragique, mais tragicomique 19e, la poitrinaire de service, quoi, on peut dire ça comme ça. Et puis il y a son fils qui est interprété par un acteur qui en effet n'a quasiment aucun texte, mais qui saute un peu partout. Qui bricole, qui monte à des échelles, qui danse parfois. Je trouve que c'est des moments assez réussis. Et cette manière de tout mélanger, ça met un petit peu dans un état bizarre. Oui, exactement. La fille qui a un côté vraiment télé, vraiment, c'est série télé. Tout ça fait, c'est perturbant. Hein. Je suis pas absolument sûre de trouver ça bien, mais en tout cas. Ça crée un objet qui met assez mal à l'aise et qui, je pense, que ça va vraiment me rester, moi, ce spectacle.
Bon, vous me donnez envie, Anna Zegalevitch.
Mais moi, je trouve que c'est très réussi aussi. C'est un spectacle qui m'a beaucoup plu et beaucoup pour les personnages secondaires qui sont autour de lui, parce qu'on sait à quel point c'est difficile l'écoute. au théâtre, et avec ce personnage qui est une sorte d'ogre qui prend toute la place, qui est un tyran domestique, qui passe son temps à vociférer, à érupter. Il est contre tout, contre lui-même avant tout, évidemment, mais contre les femmes, contre les hommes, contre la musique. À un moment donné, il y a de la musique, il dit ah non, pas Mozart ici, parce qu'il veut faire chier les Autrichiens, donc il dit non, on mettra pas Mozart, on mettra Verdi. Donc là on entend à fond le Dies Irae, puis il dit ah je déteste Verdi, non je déteste la musique tout court. Enfin, c'est comme ça tout le temps. Il dit
ça vous fait rire. Toujours après, ça fait encore rire.
Non, mais j'étais mort de rire pendant le spectacle.
D'accord. Et d'ailleurs, moi, pas du tout.
Alors, c'est assez drôle parce que moi, il y avait un peu de monde dans la salle.
Un peu.
Comment, tous les hommes sont Hitler. C'est pas drôle comme ça, mais c'est très drôle quand il le dit. Ah oui, il dit aussi, dès que ma femme parle, j'entends qu'elle est fille de maçon. Enfin bon, c'est plein de choses comme ça, c'est du Thomas Bernhard, c'est très très drôle. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup ri pendant le spectacle et j'étais un peu seule, alors que d'habitude je ris pas quand les gens rient.
Il y avait du monde dans votre salle.
Il y avait un petit peu de monde, ouais. J'étais mercredi dernier, il y avait un petit peu de monde. Et je trouve que les personnages existent très subtilement en étant très très outrancier, ce qui c'est quand même une gageure pas évidente, parce qu'en effet le Lucile parlait de moi je trouve que c'est une idée super, ce fils
Julien
qui est une sorte de Jules Pélissier, qui saute, qui bondit, qui est complètement félin. Ça crée un rapport avec le père étrange parce qu'on a l'impression que tout glisse en fait sur lui, et en même temps il est quand même là. Il y a un rapport un peu incestueux avec la fille, enfin tout est très bien caractérisé et croqué, sans pour moi être caricatural. Je trouve que c'est très réussi.
Philippe Chevillier.
Ah, vous avez vu beaucoup de choses dans les personnages secondaires que moi j'ai pas vu. Alors simplement si Ferruccio, donc qui est joué par Jules Pélissier, il y a une tentative. Et là encore une idée de Perton de dire on va finalement c'est un acrobate, c'est un circassien qui va et donc par rapport au père, on imagine justement le personnage qui essaye de s'échapper justement comme il peut. Mais pour le reste, c'est vrai que je trouve que bon le personnage de la mère, c'est Barbara Crutzen qui a signé aussi le décor, qui a co-signé le décor avec Perton. Pour donner un petit peu plus d'existence que la fille au côté des chiens, oui j'ai bien vu, mais c'est alors évidemment c'est des rôles très courts, mais je trouve que c'est juste des amorces. C'est pas encore moi ce spectacle j'ai plutôt aimé, mais je trouve que c'est pas ça m'a pas autant transporté que Au But, qui était le pendant féminin. C'est une sorte de diptyque qu'il a prévu, et pourtant on a des comédiens. Un comédien face à une comédienne qui, pour moi, sont quand même de grands comédiens tous les deux.
Oui. Donc, voilà. Mais peut-être que la différence pour moi avec Dominique Valadier, c'est que Marcon, je trouve qu'il est très bien dans le rôle, mais il n'est pas inattendu. C'est-à-dire qu'il est un peu tout d'un bloc du début à la fin. Il déroule. Alors que Dominique Valadier est extrêmement bien. Mais il sort pas complètement des contours du personnage qui dessine dès le départ.
Maladie dans Au But, c'est extraordinaire.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. Et c'est peut-être là.
Mais ça dépend peut-être des soirs aussi. Parce que
moi, c'est pas la même pièce non plus. Donc,
non, bien sûr. Il
faut comparer ce qu'il compare. C'est Thomas Bernhard et Christophe Perton qui
sont en scène. Mais dans la surprise d'un personnage totalement central.
Mais Bruscon, il a moins de surprises aussi, hein. Il est écrit aussi.
Non, parce qu'il dit tout son contraire. Il est très ambivalent en permanence, et c'est un personnage qui est terrible et qui est en même temps profondément touchant.
Oui,
quand on connaît la genèse.
Honnêtement,
je préfère
Minetti. Ça me touche beaucoup plus que le faiseur de théâtre.
Je préfère les acteurs que les auteurs. On leur dira. Dernier mot pour Lucile Comeau sur le faiseur de théâtre.
Oui, moi, j'ai eu vraiment quelques réserves sur justement le contexte, parce que à force d'avoir des choses qui partent dans toutes les directions, par exemple sur l'Autriche, qui est quand même un des gros contextes et une des grosses charges du discours et un des intérêts du texte. En fait, on le perd un petit peu cet intérêt, parce qu'on ne sait absolument pas où on est ni quand on est, parce que temporellement c'est à peu près pareil. Vraiment, c'est totalement indéfini. Et en même temps, pourquoi pas, parce qu'on en rabat tellement sur Thomas Bernhard et l'Autriche, la satire politique autrichienne et justement les nazis, etc., que là, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un peu zappé cet aspect-là du texte.
Bon, vous m'avez donné envie d'aller voir Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, mise en scène Christophe Perton. C'est jusqu'au 9 mars au Théâtre Déjazé. Et en fin de semaine, mais il y aura d'autres dates. Alors, je pense pas qu'ils refassent le décor à chaque fois. Hein. Donc, on verra donc le théâtre Déjazé à la Maison des Arts du Léman, à Thonon-les-Bains, le 12 mars, au théâtre Liberté, à Toulon, le 15 mars. Et puis, ce spectacle sera également présenté au Célestin, à Lyon, du 9 au 13 avril. C'est l'heure du coup de cœur. L'heure du coup de cœur d'Anna Segalevitch ce soir pour un spectacle qui s'intitule Localement agité, à voir au Théâtre de Paris. Mais de quoi s'agit-il, Anna ?
Alors, c'est un spectacle, c'est une pièce qui a été écrite par Arnaud Bédoué, qui est mise en scène par Hervé Ikovic. Alors, c'est une pièce qui raconte, en fait, c'est une réunion de famille en Bretagne pour disperser les cendres du père qui est mort quelques années plus tôt, mais qui, dans son testament, a exigé que, en fait, ces cendres soient dispersées un 29 février par vent d'est. Ce qui apparemment n'est pas une chose simple parce qu'en février il y a peu de vent d'est, puis comme il y a un 29 février tous les 4 ans, donc ça limite la possibilité de disperser ses cendres, et tant qu'ils ne dispersent pas les cendres et qu'ils ne suivent pas le testament, ils restent en indivision, enfin voilà les trucs classiques d'héritage. Voilà.
Bravo.
Il y a 5 enfants, Yves, Boris, Clément, Pierre et Marie, et la belle-fille, Jeanne, qui sont convoquées, enfin la belle-fille, l'ex-belle-fille, parce qu'entre-temps, en fait, elle n'est plus avec Pierre, et donc ils sont là tous les six, des personnalités très très différentes, hein. Il y a voilà le fils Yves qui vit dans cette maison en Bretagne, qui est lui-même un écrivain un peu raté, qui est dans l'admiration en fait totale de son père disparu, qui était lui-même un écrivain important, donc il s'occupe des affaires de son père. Il y a Clément qui lui fait du business, qui est toujours pressé. Il y a Pierre qui est éditeur, un peu dépressif. Il y a Marie qui travaillait dans un laboratoire, et puis Jeanne qui est chercheuse, qui était étudiante, qui a fait sa thèse avec le fameux père. C'est une figure paternelle qui est écrasante d'autorité, hein. C'était une figure humaniste, intellectuelle, etc. Et en fait, lors de cette rencontre, va éclater un secret familial énorme qui va totalement faire exploser et remettre en question cette figure paternelle.
Vous n'allez pas nous le dire, évidemment.
Je ne vous le divulguerai
pas. Peut-être que je vous demanderai dans le couloir,
bien
en sortant
sûr,
du studio,
voilà,
mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, en plus, il ne faut pas le dire parce que c'est vraiment très savoureux et c'est inattendu, ce secret. Donc, c'est très amusant. C'est une pièce qui est très bien écrite. Il n'y en a pas tant que ça des auteurs aujourd'hui, par Arnaud Bédoué, qui joue aussi dans le spectacle. Il avait écrit plus de 20 ans, presque 30 ans, un spectacle qui s'appelle King Ali, pour lequel il avait eu pas mal de prix. Moi, j'avais vu un spectacle il y a 2 ans au Théâtre de l'Atelier, sur Flaubert avec Jacques Weber, et qui était bien aussi. Et je dois dire que c'est une écriture qui est fine parce qu'il arrive à croquer des personnages très bien lui aussi, à les caractériser. En même temps, c'est très sensible, très humain. C'est drôle, ça fuse, hein, y a quelque chose qui s'enchaîne, c'est très rythmé. Et en même temps, c'est touchant et c'est des beaux personnages. Et c'est aussi mis en scène avec je trouve, beaucoup de sensibilité par Hervé Ikovic. Il y a toujours deux, ça se passe sur deux plans. Il y a le premier plan qui est la maison et le second plan qui est la mère. Et on enchaîne d'une scène à l'autre avec beaucoup de fluidité. Je suis plus partagée sur la totalité de la distribution. Il y a des acteurs qui me plaisent moins, mais j'ai beaucoup aimé Arnaud Bédoué. Voilà, beaucoup aimé Arnaud Bédoué et Anne Loiret notamment. Et je trouve que c'est un vraiment un spectacle qui est touchant, qui est drôle, qui a quelque chose de doux amer, mais vraiment c'est à voir. C'est une écriture qui est particulière et qui est originale et qui a beaucoup de finesse et d'esprit.
Localement agité, texte d'Arnaud Bédoué, également comédien de ce spectacle. C'est jusqu'au 31 mars au Théâtre de Paris. Et oui, nous sommes entrés dans le petit salon de Lucille Como avec cette question bergmanienne, ou ce thème bergmanien, c'est mieux pour un thème, cri et chuchotement.
Oui, c'est sans doute maintenant, je crois, une des premières choses que je regarde et surtout que j'écoute quand le noir se fait au théâtre, comment me parvient la voix des acteurs. Et dernièrement, je me suis attardée sur cette question après avoir vu coup sur coup, c'était vraiment un jour et puis le lendemain, 2 spectacles, Les Idoles de Christophe Honoré et puis Scarlett Letter d'Angelica Liddell, dont on a parlé ici. Dans le premier, une bonne partie de ce qui est dit sur scène est dit dans un micro à pied. Honoré reproduit là un dispositif déjà mis en place dans la pièce qu'il a fait connaître au théâtre, nouveau roman roman. Dans la deuxième, la voix vociférante, voire hurlante de la comédienne espagnole, elle, est au naturel. Si le premier spectacle est plutôt construit sur un mode mezzo voce, sans larmes ni sang, le second est totalement survolté et le son de la voix et surtout ce qu'il peut produire comme émotion ou au contraire comme non-émotion était vraiment au cœur de ma réception des deux spectacles. C'est peut-être un des paramètres les plus intéressants à mon avis aujourd'hui, la manière dont les metteurs en scène utilisent la sonorisation au théâtre. Alors première chose, c'est la question du volume. Certains spectacles sont sonorisés tout simplement pour qu'on les entende. C'est le cas dans certains contextes particuliers, en extérieur, dans grandes salles. Au Festival d'Avignon, selon que les voix soient sonorisées ou non dans le Palais des Papes, par exemple, on n'a pas du tout, à mon avis, à faire au même spectacle. On ne se situe pas de la même manière. C'est peut-être même la première chose qu'on remarque et qui détermine notre manière d'y assister. À l'inverse, je me souviens d'un spectacle de Dieudonné Nyanguna à Avignon, dans la carrière Boulbon, qui est ce vaste lieu rocheux sur les hauteurs. C'était un soir de grand vent, je n'entendais absolument rien du tout. Ça, ce sont des considérations purement pratiques. Il y a un autre cas de figure qui est d'ailleurs un peu lié au premier. Certains spectacles sont sonorisés pour permettre qu'on entende une parole qui n'est pas projetée par les comédiens. Cela leur permet de parler naturellement, de chuchoter, d'être libre de leurs mouvements, voire de tourner totalement le dos à la scène. C'est l'option, on peut dire, naturaliste, là où le jeu ressemble peut-être le plus au cinéma. Parfois, la sonorisation est une option artistique plus radicale. Le micro à pied chez Christophe Honoré est aussi un élément de décor qui institutionnalise d'une certaine manière la parole, en fait d'emblée un discours, puisqu'il oblige le comédien à se camper devant et à extérioriser en quelque sorte son texte. Je me rappelle un spectacle de Stanislas Nordel il y a quelques années, c'était Le Triomphe de l'amour de Marivaux, où tous les comédiens chuchotaient le texte face publique dans des micros à pied. Et puis, il y a la question du volume sonore comme matière théâtrale en soi. Dans les spectacles de Julien Gosselin, par exemple, les comédiens sont appareillés, pour le coup on ne voit pas les micros, et le volume des dialogues accordés à l'utilisation de nappes musicales poussées parfois à fond. Alors plusieurs critiques, y compris ici à La Dispute, regrettent souvent cette utilisation du micro sur scène, qu'ils envisagent au mieux comme un gadget, au pire comme un moyen de pallier la faiblesse du jeu des acteurs. Il existe toujours cette méfiance, si les comédiens sont appareillés, c'est peut-être qu'ils ne sont pas capables de dire leur texte. De fait, il y a quelque chose d'une querelle entre anciens et modernes qui affleure. Un théâtre parlé contre un théâtre déclamé, un théâtre technique contre un théâtre authentique. Et vous, que vous inspire cette sonorisation croissante du théâtre ?
Ah, y a tellement à dire. Il y a un petit peu de temps pour le faire. T'as qui va commencer ? Pour une fois, je commence. Juste pour une précision concernant le... Vous parlez de la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon. En fait, tous les spectacles sont, depuis maintenant, je crois, une trentaine d'années, sonorisés. Sans que, voyez, je vous apprends quelque chose. Il y a un génie qui s'appelle André Serré, qui est un ingénieur du son, qui a beaucoup œuvré pour le théâtre et qui, alors je sais plus en quelle année c'était, mais je crois que c'est la fin des années 80, au début 90. Il y a 2500 petits haut-parleurs. Sous les bancs du
par
Festival
les villages,
d'Avignon.
Par exemple, j'étais absolument persuadée que c'était
ben non,
les voix naturelles.
Il y a un soutien.
Mais c'est des amplificateurs, c'est des
oui.
soutiens.
C'est voilà. un soutien. Ouais, oui, non, mais ouais, je veux dire qu'aujourd'hui, depuis très de nombreuses ouais. années, il n'y a pas de spectacle qui se donne dans la cour d'honneur du Palais des Papes sans soutien
sans
vocal. Mais ça change quand même beaucoup de choses, bah, et, évidemment, y compris dans le jeu, parce qu'on imagine... que Gérard Philippe se faire entendre tout en haut du Palais des Papes dans son site ou dans quoi que ce soit, c'était une autre affaire. Bon, cette petite parenthèse fermée, puis un hommage à André Serré, qui est quand même un type qui a fait des choses folles dans à ce niveau-là. Anna Segalevitch, par quel bout prendre ça hein ?
Par quel bout prendre ça ? Ça change par le vôtre, puisque vous parlez effectivement de l'aspect physique énorme et... pour le spectateur, et je dirais pour l'acteur, et je dirais même pour le spectateur. Parce que quand vous avez dit, Lucille, que vous alliez faire un petit salon sur la sonorisation, je me dis, tiens, il y a une chose quand même dont je me rends compte, c'est comment on est spectateur, comment on se tient dans une salle de théâtre ou dans une salle de cinéma. Moi, dans une salle de cinéma, je m'assois confortablement, je mets mon dos vraiment collé au dossier, je relève mes jambes et je regarde, je reçois le spectacle. Dans une salle de théâtre, je m'en rends compte, hein, je ne suis jamais assise, je n'ai jamais
le dos.
Il n'y a pas toujours des dossiers. Bon.
Oui, mais quand il y en a, je veux dire, quand il y a la possibilité d'avoir des dossiers, je ne suis jamais adossée à mon siège, je suis tendue vers le spectateur. Avec cette idée, vers moi-même, vers le plateau, avec cette idée de tendre l'oreille et d'aller vers. Et il y a quand même une grande différence de réception dans le fait de recevoir avec la sonorisation, avec le confort de la sonorisation et le fait d'aller vers. je suis évidemment pas contre la sonorisation, pas du tout. Mais c'est un élément qui est important parce que qui change complètement, je trouve, l'espace du spectateur. Alors, il y a une chose aussi, je me disais, paradoxalement, le micro met plus à nu le spectateur, le comédien, mais il l'habille en même temps. Mmh. C'est-à-dire que le micro, c'est comme un costume, en fait. C'est comme un costume où l'acteur peut se permettre beaucoup de choses et il est protégé par cette sonorisation qui l'englobe, qui l'entoure et qui le conforte, quelque part. Alors qu'il est plus fragile dans... évidemment sans sonorisation parce qu'il est tout seul et qu'il doit faire l'effort de pousser et d'aller chercher en lui pour pousser des choses. Et en même temps, ça crée une intimité. Enfin, ce n'est que du paradoxe, en fait, je trouve, l'histoire de la sonorisation qui soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je comprends
que quelques autres questions, mais parce que sinon...
oui, sinon, je monologue pas. Excusez-moi.
Mais on vous adore, Anna, c'est pas la question.
Absolument.
Philippe Chevillet.
Alors, moi, je vais avoir un jugement
Le micro, Dana.
Globalement positif, si c'est pas systématique. C'est-à-dire que, grosso modo, d'un point de vue général, c'est intéressant la sonorisation avec les progrès techniques parce que ça permet une approche vraiment totale. On aime le théâtre total, donc des éléments sonores, c'est-à-dire que le voix, les musiques, les sons peuvent être modulés en fonction. Ça peut être une garantie aussi de jeu naturel. Et ça peut être aussi une façon de moduler, c'est-à-dire les fameux chuchotements, effectivement, on les entend. Alors après, ça dépend des spectacles. Quand vous avez effectivement Vanhoef qui prend, par exemple, un scénario de film, je crois que c'est Éric Genovès qui me disait le problème dans un film, aussi, même si les dialogues sont très bons, il y a bien un moment où on dit « passe-moi le sel » ou quelque chose, et quand on déclame sur scène « passe-moi le sel », ça passe pas. Dans un micro, quand on le dit très bas, on est dans le naturel, le banal de la conversation, et ça fonctionne. Donc c'est utile, ça peut être utile aussi quand Bob Wilson fait des spectacles ou musique, son chanson, tout ça. Là ça apparaît indispensable. Mais quelquefois, effectivement, d'abord, le micro peut être un piège, parce que c'est un habillage, mais quand un acteur est pas très bon, ou enfin disons, joue moins bien, soit, pour être gentil,
et pas bien dirigé,
et qui se sert d'un micro, d'une certaine façon, on peut l'entendre plus. Et puis, il y a aussi le problème du comédien qui n'est pas tout à fait habitué au micro, qui se met à hurler dans le micro en oubliant qu'il a un micro. Donc, ça peut parfois être un peu bancal. Mais, grosso modo, et alors, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est aussi dans le jeune théâtre. Ce qui peut être gênant, c'est quand des jeunes compagnies, dans une petite salle, se mettent à utiliser des micros, alors qu'on se dit, ils peuvent tout à fait avoir un parler naturel avec 50 spectateurs dans la salle et pas très loin. Et que je pense qu'en tout cas, passer au micro, en fait, c'est réservé à des comédiens et à des troupes. D'ailleurs, Vanhoef, il a une troupe formidable. La Comédie Française, ils peuvent le faire. Il faut des comédiens qui savent déjà être très bons sans micro pour passer au micro et l'utiliser un peu autrement.
Alors voilà, moi je vais continuer. Je crois que ça m'a changé comme spectateur, en fait, le développement quand même, parce que c'est quand même de plus en plus fréquent, cette sonorisation des comédiens sur les plateaux de théâtre, ou en tout cas dans le théâtre que je vais peut-être plus voir. C'est peut-être aussi une question de choix, d'esthétique, etc. Mais même si on voit beaucoup de choses très différentes ici. Et je me disais ça aussi, d'ailleurs, justement, l'autre soir à la Comédie Française devant Fanny Alexandre, et surtout cette première partie, avec ses déclamations très portées, très vieux théâtre, et j'entends bien que c'est absolument fait exprès d'en faire Fanny Alexandre, et je me disais, mais peut-être que j'ai quand même beaucoup plus de mal à recevoir ce type de déclamation aujourd'hui, et c'est peut-être moi comme spectateur qui ai changé, peut-être mes goûts aussi ont été changés par l'utilisation que je trouve souvent parfois très belle, comme Ivo Vanhoef. C'est vrai que j'ai ce souvenir toujours de sa mise en scène de Mary Stuart que j'avais vu à la Mac de Créteil, qui était un vaisseau énorme, qui se jouait sur à peu près 10 mètres carrés avec 4 personnages, avec vraiment parler très très doucement, et je trouvais ça absolument sublime. Mais je relance alors la question vers Lucille Como, où je relance un autre fil. Le problème de la sonorisation, souvent, c'est un problème de spatialisation. C'est-à-dire que si vous êtes devant un plateau, ça pouvait être le cas dans les années d'ailleurs, vous avez beaucoup de personnages sur la scène, le son n'est quasiment jamais spatialisé au théâtre. Quand on est dans la stéréo, on entend ça vient de la droite, de la gauche. Au théâtre, des fois, moi, je passe mon temps à chercher mais qui est en train de parler.
Qui parle, c'est vrai.
Qui parle. Et franchement, ça, c'est pas un problème simple. Et je pense que c'est surtout pas un problème.
Est-ce qu'on arrivera à la binaurisation au système binaural.
Bah, il faudra en tout cas que qu'André Serré s'y mette pour qu'il y ait vraiment un système un peu standard de spatialisation, au moins gauche-droite-centre sur les plateaux de théâtre, qui permettrait de savoir qui parle. Et à cet égard, on avait parlé ici de Western de Matthew Bauer, et je trouvais que l'exemple était assez drôle, parce que chaque comédien portait sur lui-même son enceinte et son mégaphone, ce qui était un peu revolver-mégaphone. Alors, ça marchait pas tout du long, mais... Bah, le son venait absolument du comédien, je trouvais ça très malin pour le coup. Lucille Gaumont.
Oui, c'est là qu'il y a une grande injustice entre les salles et entre les spectacles, du coup, parce que ça coûte très cher de sonoriser correctement, et en plus de sonoriser à chaque fois quand il y a une tournée dans les salles et d'adapter. Et aussi, il y a quand même quelque chose sur la voix. Moi, je ne sais pas comment les jeunes comédiens travaillent aujourd'hui. J'imagine qu'ils vont de plus en plus travailler à ça.
Ils font des stages à Radio France, notamment.
Bien sûr, de savoir parler dans un micro. Mais les textures de voix ne sont vraiment pas les mêmes. On n'a pas encore réussi. Là, par exemple, on parlait d'André Marcon. C'est impossible d'imaginer cette voix-là. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer sonoriser ce spectacle. Oui, au théâtre, ce spectacle-là, avec sa voix à lui. Je pense qu'on perd forcément en inflexion. C'est évident. Je pensais aussi à une autre piste, je pensais à Julien Gosselin, qui en effet appareille tous ses comédiens.
Lui, il fait aussi du mixage,
oui,
Gosselin.
Oui, ça lui permet à la fois de travailler sur le son et la musique, bien sûr, mais ça lui permet aussi d'adapter concrètement des énormes spectacles en n'utilisant pas tant de comédiens que ça, qui sont du coup capables de parler. Enfin, dans 2666, il y a un des premiers monologues d'une des comédiennes, je ne sais pas combien de temps il dure, mais il dure entre 20 et 30 minutes, et en crescendo, et à la fin, elle hurle en effet dans le micro, mais je pense pas que ce soit possible de réaliser ça au théâtre sans sonorisation.
Ouais, ils sont déjà cuits tous les soirs. Mais...
Oui, bien sûr, c'est aussi lié au texte et à la longueur des spectacles.
Philippe Chevillier.
Oui, je pensais aussi au passage, quand même, il fallait le citer, à Simon McBurney, ce qu'il avait fait avec The Encounter. C'est-à-dire, on est vraiment dans la technologie avancée.
Chaque spectateur avait un casque.
Alors, je crois qu'il y a un spectacle qui se prépare, j'ai oublié ce que c'était d'ailleurs, mais avec des casques aussi. Donc, on a eu aussi Roland Zé qui faisait ça. Et donc, du coup, là, on entre dans une autre dimension aussi où on a un rapport au comédien qui est vraiment dans l'oreille, qui est quand même assez extraordinaire, ou au son qui est assez extraordinaire. Donc, c'est la preuve que la sonorisation peut être très positive dans des cas. Comme ça.
Et là encore, ça se discute aussi parce que du coup, ça nous met chacun tout seul face à un spectacle et la communauté du théâtre. Enfin, quelque part, il y a presque quelque chose d'anti-théâtral dans la sonorisation. Parce que le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est l'artisanat, c'est des gens sur des planches et puis d'autres gens qui vont le voir, qui vont les voir. Et Lucille, quand vous parlez des moyens, c'est vrai que ça met en jeu du coup des moyens. Donc quand on peut bien le faire, c'est formidable, et si on peut pas bien le faire, ça ne marche pas. Donc ça soulève aussi quand même cette question là après je trouve qu'il y a aussi encore une autre question, qui est la question de la surenchère. C'est-à-dire que ça se développe de plus en plus, etc., mais on a tendance à monter le volume. Vous voyez, et il y a quand même, je ne sais pas combien j'ai de bouchons d'oreilles dans mon sac, par exemple, à force qu'on m'en distribue au spectacle. Et ça soulève une question. Est-ce que c'est normal, quand on va voir un spectacle de théâtre, d'avoir des bouchons dans les oreilles?
Mais ça, ce sont les normes aussi, vous savez, que les décibels tolérés, les seuils ont été baissés, c'est valable pour toutes les salles de concert. Ça n'arrivait jamais avant.
C'est la même chose quand on a un avertissement maintenant sur les feuilles de salle ou sur les affiches en disant ce spectacle est susceptible de choquer. C'est une manière, c'est une forme de radicalité qui se joue à ce niveau-là. C'est pas seulement.
C'est une forme de radicalité qui se joue à ce niveau-là.
Mais qui peut avoir un sens nouveau.
Mais ceux qui mettent vraiment très très fort, ils sont pas très nombreux. Gosselin, on l'a dit. C'est Roméo Castellucci. Il va dans les infrabasses aussi. Macaigne.
En danse, au Fechtechter.
Ah oui, non. Mais en danse, c'est encore autre chose. Vous voulez dire un dernier mot, Philippe Chevillier? Non,
je crois qu'on a.
Eh bien, tous les micros.
Juste quand même pour aussi avoir une petite note, c'est vrai que quand on peut avoir un spectacle ou un classique qui est joué, même transposé tout d'un coup avec la voix des comédiens qui n'ont pas à forcer et qui nous parlent, c'est quand même c'est vrai que là, on a le côté charnel, l'incarnation, la spatialisation qui est l'idéal, et donc on est content d'avoir ces spectacles-là aussi.
Oui,
voilà.
C'est vrai. Alors je finirai sur une autre citation qu'Isabelle Huppert qui est remarquée. Qu'en s'émerveillant que Dominique Valadier, on en avait parlé ici, qui a peur de Virginia Woolf, est monté il y a 2-3 ans, parlait extrêmement bas et que du coup toute la salle tendait l'oreille et que c'était absolument magnifique, au risque de ne pas être entendu, mais justement, dans ces cas-là, nos capacités auditives sont grandes. Et avant de conclure cette émission, si vous voulez, ça ne dérange pas Philippe Chevillard, Massé Galéville, vous savez qu'on est encore à l'antenne. Hein, 19h57, c'est pas fini.
Désolé,
c'est
je parlais dans le micro.
C'est pas fini parce que c'est le jeu de la dispute. Et c'est le jeu de la dispute, et ce soir, c'est une première pour Joséphine Dumoulin, qui nous a rejoint dans notre petite équipe de la dispute. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et Joséphine, du coup, va rappeler la question que posait Sarah Dion, qui n'est plus avec nous. Qui n'est plus avec nous depuis vendredi soir. Donc, quelle était la question, Joséphine ?
La question était, à quelle agence photographique Alex Majoli appartient-il ? Et la réponse était Magnum.
Ce soir, des invitations à gagner pour les nouvelles expositions de la Maison Européenne de la Photographie, qui sont à voir du 6 mars au 26 mai. Il y a Rennes Angle, on va en parler. Et Coco Capitan, quelle est la question, Joséphine ?
Quel boulevard parisien fut immortalisé par une célèbre photographie de Louis Daguerre ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, ainsi sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain à 19h, dispute musique avec Pascaline Podevin, Sophie Rosemont et Mathilde Serrel. Sur nos platines, Gallipoli de Beyrouth, Manga de Meyer Andrade, Victoire Chose de Vima Laponce et Tsiraaka Arrivel, et puis un coup de cœur de Mathilde Serrel pour Dune de Canine.